RMC.
Inbound the card right to Jordan. Time winding down. Michael for three. Yeah! Yeah! Yeah!
Basket time.
Final seconds. Bryant for the win. Bang!
Pierre Dorian.
Time, basket time, votre rendez-vous basket sur RMC tous les mardis. Exceptionnellement aujourd'hui, un mercredi, on s'adapte à l'actualité. On a bien fait d'attendre le match 4 entre Indiana et New York. Fred Weiss, Félix Gabory et Arnaud Valadon, bonjour messieurs.
Hello, hello.
Salut,
on est toujours sur des thématiques de fin de saison. Là, on est dans l'actu pure. On va pas se casser la tête, c'est un spécial final. Nous allons parler des finales NBA et de l'Euroleague. Malheureusement, cette finale perdue par Monaco face au Fener Istanbul après un exploit contre l'Olympiakos. On ne sait pas trop ce qu'on va penser de cette performance de Monaco. Est-ce qu'aller en finale, c'est un exploit, selon vous? Ou est-ce que perdre contre le Fener, quand tu as battu l'Olympiakos, c'est une contre-performance? Vous allez me dire ce que vous en pensez. En tout cas, on a vécu une belle saison d'Euroleague.
Oui.
Et le Fener, qui était ton favori il y a 2 ans, a fini par gagner.
Ouais, sauf que j'avais dit que c'était mon favori aussi sur ce Final Four, hein, si tu te rappelles.
Tout à fait. Sur les finales NBA, un homme s'est mis en valeur la nuit dernière, c'est Tyrese Haliburton. Je vais vous poser une question très simple à comprendre, mais pas facile à répondre. Haliburton, est-il un joueur sous-coté ou sur-coté? Puisque ses pairs estiment que c'est le joueur le plus sur-coté de la Ligue. Dans la partie historique... Vous allez me parler des meilleurs lieutenants de l'histoire, puisqu'il y a des joueurs, des secondes options qui font des grands playoffs cette année. Et puis, dans le quiz, on ne va pas non plus se casser la tête. Hein, on va faire des questions d'actualité. Comme ça, ce sera réglé. Et d'ici là, peut-être qu'on aura calé un petit morceau pour un blind test.
C'est chaud,
hein, c'est chaud. Non, parce que je te vois un peu mou, là.
Oui, je suis un petit réveiller. Peu mou, oui. Non, je vois Félix et ça me rend un petit peu mou.
On va le réveiller. Je ne sais pas comment le prendre, Fred.
C'est plus dur quand il y a Stephen.
Ouais, c'est ça.
Allez, c'est parti.
You think he's over it?
Who?
Tyrese.
I think he's a very good player.
Haliburton, long three.
I do think he's overrated.
He's a very good player.
Indiana 4-6, three.
Haliburton. That's not what I asked you, brother.
I just said he's a very good player.
Do you think he's overrated?
Do you?
No, he's not overrated.
I just said he's a very good player.
Well, it's a yes or no question.
No. And Jimmy Valanciunas is definitely not underrated.
Then Tyrese Haliburton. With his 15th assist.
Right there.
Alors, quand on vous pose la question, est-ce que ce joueur est surcoté et qu'on répond en l'occurrence Charles Barkley, c'est un très bon joueur. Je pense que ça veut tout dire, non, Fred? Tu l'interprètes comme moi ou pas?
Ouais, je l'interprète comme toi. Oui, je pense qu'il considère qu'il est overrated.
Aujourd'hui, on va faire un débat sur un joueur en particulier en attendant le dénouement de ces finales à l'Est et à l'Ouest. Puisqu'Indiana est tout proche de la finale, désormais, il mène 3-1 face à New York après avoir gagné les 2 premiers matchs à l'extérieur. Donc, il y a quand même une belle option de prise avec un Tyrese Haliburton stratosphérique sur le match 4 à 32 points, 15 passes et 12 rebonds. Haliburton qui est pour autant capable de tout et de son contraire puisque contre les Cavs, il nous a sorti aussi un match à 4 points, 5 passes et 0 rebond. C'est un joueur qui n'est pas toujours au rendez-vous, mais qui peut avoir des soirées géniales. Rappelons qu'il était considéré à la mi-saison comme le joueur le plus surcoté par les autres joueurs NBA, selon un sondage de The Athletic, où les réponses étaient anonymes. Donc on pouvait se lâcher. Qui est le plus surcoté de Basket Time, par exemple? Si je vous pose la question là, vous n'allez pas me le dire.
Félix.
Mais
pardon.
On a dit anonyme normalement.
Mais si je vous dis que c'est anonyme, peut-être que je vais avoir des réponses. Ce sondage mettait Haliburton en tête devant Rudy Gobert et Trae Young. Et donc bon, ce qui n'est pas très surprenant pour Rudy et Trae Young, hein, non pas que je trouve qu'ils soient surcotés, mais on sait que c'est des joueurs qui font débat.
Et les deux années, c'était Rudy à chaque fois qui était premier et qui avait ce titre
voilà pourquoi
peu glorieux.
Je dis que ce n'est pas très étonnant. Donc, le retrouver Haliburton là, ça veut dire quelque chose. Donc, pour vous, est-ce qu'on a affaire avec Tyrese Haliburton à un joueur surcoté ou sous-coté? Qui est-ce qui démarre? Qui est-ce qui trouve qu'il est surcoté dans cette émission?
Moi, je pense que personne ne va dire qu'il est surcoté parce que vu ce qu'il est en train de faire et vu surtout le dernier match qu'il vient de faire, ce serait difficile de dire qu'il est surcoté. Par contre... Il a ce défaut.
Par contre, je vais le découper maintenant.
Non, je vais pas le découper.
Après cette petite introduction.
Non. Il peut être fantastique. Il peut être incroyable. Il a une vision du jeu qui est parfois incroyable. Il peut shooter. Il prend des shoots. Je sais pas si vous avez regardé le match. Le match qu'il fait, il prend des shoots, notamment sur le premier quart-temps. Il est loin. C'est pas forcément des bons shoots, mais il a une adresse folle.
Et il a un niveau de confiance surtout. Il a un niveau de confiance.
Il a un niveau de confiance incroyable. Mais quand il a ce niveau de confiance, justement, bah, t'es obligé de monter sur lui. Donc, il va créer plus de jeux pour les autres, etc. Donc, il est vraiment très dépendant de son adresse. Et c'est vrai que parfois, il peut passer complètement à travers. Et ça, c'est pas normal pour une superstar. Ouais. C'est ça qui fait que c'est pas vraiment une superstar. C'est un joueur extraordinaire. Et c'est pour ça que Charles Barkley le dit. Et je trouve qu'il résume exactement. C'est un très bon joueur de basket. Mais il manque de constance parfois.
Non, mais là, Fred, tu peux absolument rien dire sur les playoffs qu'il est en train de faire. Là, il met tout le monde d'accord. Je suis d'accord que sur les derniers mois, sur ces dernières campagnes, il y avait certains moments où il était un peu plus en dedans.
4.0 rebond, tu peux pas faire ça.
Mais tu peux pas mettre 35 points à tous les matchs.
Faire un match à 15, même, comme là, ça arrive à certains.
Il met tout le monde d'accord s'il a fait des. Enfin, dès qu'il faut répondre présent, il
fait. Il fait des super matchs. Je suis d'accord avec toi, Félix.
Mais par contre, clutch aussi.
Normalement, une superstar, ça a des seuils de sous lesquels tu n'as pas le droit de descendre.
Voilà.
Bah, pour moi, une superstar, c'est quelqu'un qui va t'assurer, comme dit Pierre, minimum 15 points, perdre peu de ballons, faire quelques passes, et ça, c'est ton minimum. Et c'est pour ça que tu es une superstar.
Shai a fait des matchs en dessous, mais pas à 4 points.
Voilà, c'est ça.
Qui le considère comme une superstar?
Quand tu dis surcoté ou sous-coté, ça veut dire que tu lui attribues un statut qui peut aller très haut ou très bas. Hein.
Voilà, je n'ai jamais entendu revendiquer forcément ce statut.
Mais lui, non. Mais on lui a peut-être donné ce statut parce que c'est le go-to guy de cette équipe d'Indiana, qui est une très bonne équipe.
Si tu rajoutes un peu de violet sur son maillot jaune et qu'il fait le match ce soir, on dit c'est Magic Johnson. Hein,
Oui, carrément.
Bah, si tu fais points, autant de passes, playmaker un peu grand, après c'est vrai que son shoot n'est pas forcément foufou.
Il avait préparé cette.
il est capable de grandes choses. C'est vrai que. Je pense, surcoté, c'est un peu ça veut rien dire, parce que même Trae Young fait des choses exceptionnelles. Le problème de Trae Young, c'est qu'il ne va pas forcément loin en play-off.
On comprend pourquoi on dit Trae Young.
C'est un peu de la jalousie.
Mais c'est aussi un mec qui ne fait pas gagner. Et en plus, il a une grande gueule, donc il doit les agacer.
Rudy, c'est de la jalousie par rapport à son contrat. Enfin, on le sait, enfin, tu vois, c'est de notoriété, la Ligue.
Est-ce que le dribble de Rudy Gobert est surcoté? Parce qu'on a vu sa routine de dribble. Est-ce que son dribble est surcoté?
Non mais Rudy, le seul problème de Rudy, c'est son salaire en vérité. S'il n'avait pas signé un méga contrat, personne n'en parlerait. Il ferait sa carrière tranquillement sous les radars. Ouais,
c'est de la jalousie, pur et simple.
Exactement. Il fait ce qu'il a à faire selon ses qualités. Il fait pas plus parce qu'il peut pas faire plus, mais il fait pas moins non plus. Je sais pas si vous voyez.
Non mais on devient injuste avec Rudy Gobert. Là-bas,
le dernier ou l'avant-dernier, je crois, de la série contre les Lakers. Où ses coéquipiers se rendent compte en direct pendant la conférence de presse de ses stats, ils font « Ah ouais, 23 rebonds le gars ». Ouais, bah c'est ça Rudy Gobert, c'est qu'un jour il va tout arracher et puis un jour il va te mettre deux shoots de 4 points et terminé, c'est comme ça.
Parce qu'il est dépendant des autres aussi, très dépendant
des
autres.
Oui, c'est pas ton option numéro 1, ça c'est sûr, ça sera jamais, c'est sûr. Bon, passons Rudy Gobert. Donc, quel est ton avis finalement sur Haliburton ?
J'ai jamais pensé qu'il était surcoté ni sous-coté. Il est juste en fait à sa place. C'est
d'un côté, quoi.
Un très bon joueur d'une franchise qui va aller en finale NBA probablement. Avoir le match 5 à New York et le match 6 qui aura lieu à Indiana, c'est peut-être.
Ils ont deux occasions, mais en fait, ils peuvent gagner chaque rencontre.
Là, les Knicks,
ils se battent, ils sont très valeureux, mais je pense que quand même.
Ils sont sur la jante.
Sur chaque rencontre, non, mais Indiana était plus fort.
Oui,
même sur le match qu'ils ont pris à Indiana.
Oui, c'est vrai, clairement.
Les Knicks, alors on a cru un moment parce qu'ils sont revenus par deux fois, moins 6 hein, cette nuit dans le quatrième quart-temps, les Knicks.
Parce que pour le coup, mentalement, ils sont très costauds. Hein.
Mais il n'y a plus d'essence dans le moteur, à l'image de Josh Hart qui est en train de s'éteindre. Il a perdu 5 ballons. Il est moins dominant qu'en saison régulière où il pétait des triple-double à chaque match. Donc les Knicks n'arrivent pas à résoudre le problème. Siakam, Miles Turner dans la raquette où ils se font découper. Moi, j'ai vu un condensé assez large. Ça drivait à gogo. Nesmith qui est retrouvé avec ses pénétrations. Enfin, je vois pas comment ils peuvent s'en sortir.
Mathurin qui met 20 points en 12 minutes.
En fait, il y a trop d'options à Indiana. Ça qui est incroyable, c'est qu'on parlait un peu d'Haliburton qui a besoin d'être le leader, la superstar, ou est-ce que c'est une superstar, on ne sait pas. Mais il y a tellement d'options. En fait, c'est le collectif qui prime. Et là où New York, justement, se repose un peu trop sur Brunson et Kat, et qui est très dépendant de ces deux superstars, à Indiana, en fait, tu as 5-6 mecs qui peuvent scorer, qui peuvent sortir du bois sur certains matchs. Et en fait, ça devient injouable, en fait, une équipe comme ça. Et donc, collectivement, en fait, Indiana, c'est le basket. Quoi.
Et moi, je vais te parler de quelqu'un qui est sous-coté. C'est Rick Carlisle, champion avec Dallas, on n'oublie pas. Le coach qui fait jouer et qui trouve les rotations, le bon équilibre avec tout le monde de manière merveilleuse. Parce que Indiana, c'est quand même un petit marché. Alors, ils ont réussi à faire venir Siakam, qui est un énorme coup pour épauler Haliburton. Mais cette équipe, elle est plaisante à voir jouer. Et de manière générale, les équipes de Rick Carlisle, quand c'était Dallas avec Dirk Nowitzki aussi, c'était plaisant. Jason Terry et compagnie, quand ils vont chercher le titre face à Miami pour la première saison de LeBron avec le Big Three, ça jouait superbement bien au basket. Et Rick Carlisle, il faut quand même lui tirer un chapeau. Hein.
Et en plus, c'est le seul coach qui est à peu près sympathique sur ces playoffs. Ouais. Parce que, alors, je sais pas, moi ça me choque parce que.
Donc, Thibodeau, il est pas sympathique.
Moi, c'est un énorme connard de Thibodeau. Ah, mais c'est incroyable. Mais même quand il répond aux interviews, mais t'as envie de lui mettre une tarte dans la bouche.
C'est pas Popovic, quoi.
En fait, c'est trop. Ça va trop loin. Je fais une petite parenthèse. C'est mon coup de gueule personnel. C'est que les interviews pendant les matchs, c'est super. Mais vraiment, ça sert à rien du tout parce qu'ils ne disent que des platitudes, des phrases toutes faites.
Mais c'est logique.
Il faut leur donner du crédit. On va donner plus de force à notre. Je sais pas, notre.
Qu'est-ce que tu veux dire à ce moment du match?
Non, je suis pas d'accord.
C'est ridicule.
Non, parce que les reporters, ils posent une ou deux questions techniques sur le match et ils pourraient y répondre de manière succincte et technique aussi. Tu vois, bah, il faut qu'on améliore ceci, cela, je sais pas quoi, tel système, tel move, j'en sais rien. Ils s'en débarrassent. Et le seul qui est à peu près poli, c'est Rick Carlisle. Même Marc Degnaud est détestable. Enfin, je les trouve tout. Enfin, bon, bref. Il devrait arrêter.
C'est terrible comme exercice aussi. T'es dans ton match, ils ont un niveau.
Ne le faites pas.
Mais c'est ça, en fait, ça devrait pas être fait. En fait, ils ont un niveau de concentration quand t'es en plein match.
D'accord.
Côté coach, t'as pas envie de répondre à.
Après, c'est au milieu d'un temps mort, tu sais, où tu te avances, t'attends. Tu sais, quand tu prends un temps mort aux États-Unis, c'est pas comme en Europe où on arrive et tout le monde avec la plaquette et on dessine. C'est les coachs qui arrivent au milieu du terrain, qui laissent un peu souffler une minute les joueurs et t'as le temps mort pub, en fait. Et après, le véritable temps mort démarre et là, ils y vont. Il y a Greg Popovich. Vous pouvez regarder les meilleurs moments de Greg Popovich avec les interviews au bord du terrain et à un moment il y a une journaliste qui lui demande « Oui, vous shootez à 4 sur 22, qu'est-ce qui ne va pas ?» Et là il répond « On n'a pas mis dedans.
» Bon, revenons à Liberton.
Une peine à la vie, ça.
Est-ce que vous le mettez, pour mettre une sorte d'échelle de comparaison, est-ce que vous le mettez au même niveau qu'Anthony Edwards par exemple? Moi j'ai l'impression qu'il est complètement sous-considéré par rapport à Anthony Edwards.
Alors qu'il va emmener sa franchise très probablement en finale NBA.
Et pas l'autre.
Franchement, c'est une super bonne question. Très très bonne question. Parce que pour moi,
c'est pas
Anthony
totalement
Edwards,
le même poste.
C'est, alors, c'est pas le même poste, oui, mais je pense que.
Mais il y a un peu le même rôle dans l'équipe.
C'est par rapport à son aura, etc.
L'aura, l'importance,
plus
la considération.
Anthony Edwards, je pense.
Moi, surtout la considération.
C'est ça, ouais. Je plus charismatique,
c'est
Anthony Edwards.
C'est le charisme qui va faire la différence. Anthony Edwards, c'est. Il fait rêver tout le monde, quelque part. Et Haliburton, effectivement, il a cette faculté à se fondre dans un moule d'Indiana où il n'y a pas beaucoup de têtes qui dépassent. T'as Siakam et lui qui dépassent un petit peu. Et sinon, c'est plutôt tout du même niveau. Donc, c'est plus difficile dans un collectif aussi énorme qu'Indiana de dépasser vraiment.
Mais Anthony Edwards n'est pas en train de les amener en finale.
Il est pas en train
mais c'est un visage de la Ligue. Tu vois, on a créé aussi... Anthony Edwards, le visage américain de la Ligue, et Tyrese Haliburton, on l'a vu à Paris hein, quand les Spurs et Indiana se sont joués, quelqu'un de sympathique. Faut pas oublier qu'il est quand même dans Team USA cet été. Mmh. Il a peu joué, mais il est quand même dans les 12. Mmh.
Il a joué plus ou moins que Tatum?
J'en étais sûr.
Il était d'ailleurs très fan des frères Lebrun, Tyrese Haliburton.
Exactement.
Il s'est pris de passion pour le ping-pong et pour les
frères lunettes.
Les frères Lebrun. Et donc, Tyrese Haliburton, il n'a pas ce même niveau de notoriété de visage de la Ligue qu'Anthony Edwards. Même si effectivement
mais au crédit d'Anthony Edwards, c'est peut-être que la conférence Ouest, même c'est pas peut-être, c'est sûrement, est plus compliquée que la conférence Est.
Évidemment.
Donc en fait, c'est plus facile d'emmener ton équipe en finale NBA quand tu sors de l'Est.
Ouais, mais là il est un peu décevant
quand
même en finale contre OKC, non?
T'as vu la défense d'OKC, il est tellement
c'est la force numéro 1 de son équipe. Donc quand t'as une équipe comme OKC qui défend le plomb, qui a des joueurs interchangeables en défense, t'as un Caruso, t'as un Lou Dort, t'as Wallace même qui peut défendre sur lui,
Jalen
Williams, forcément t'es ciblé.
Alors
c'est
donc,
plus difficile.
Si toi tu fais une équipe, tu prends Anthony Edwards ou Tyrese Haliburton, Fred?
Je prends Anthony Edwards.
Arnaud?
Déjà parce qu'il est plus jeune.
Anthony Edwards ou Tyrese Haliburton? Je prends Haliburton pour la capacité à générer des passes et générer du jeu.
Et toi, Félix?
Anthony Edwards quand même pour le charisme et
donc
et tout le côté un peu
donc
le wawa.
Conclusion,
ouais.
Il est sous-coté. Tyrese. Bah parce que vous préférez Anthony Edwards qui
est-ce que là tu me demandes de comparer à deux joueurs et que tu le compares à un mec super
non,
fort
mais global,
Anthony Edwards
globalement qui est... globalement vous, là, dans ce débat qu'on est en train de faire, on n'est pas en train de parler d'une superstar,
mais
clairement.
Mais c'est ce qu'on dit depuis le début.
Mais moi, cette saison, Anthony Edwards, il a planté 50 points et son équipe a perdu. Tu vois, moi, je trouve que Haliburton fait plus de choses utiles à son équipe.
Tu penses que vraiment que tu peux comparer les deux équipes? Tu penses vraiment qu'Indiana, sur le roster, c'est moins fort que les Wolves, par exemple? Vraiment?
Ah non, moi, Indiana, c'est beaucoup
Indiana,
plus équilibré,
le roster,
c'est une vraie
il est
équipe.
Incroyable quand t'as Nesmith, Mathurin qui est en train de ressortir.
Nembhard.
Siakam,
Turner.
T'as un roster incroyable.
Ah oui, mais TJ McConnell. mais c'est un collectif.
C'est un collectif.
Mais pour moi, Pierrot, pour répondre à ta question, pour moi, Haliburton est en train de montrer sur cette campagne de play-off que c'est une superstar.
Donc, il est sous-côté, finalement.
Bah non, parce que moi, je le cote bien. Enfin, moi, je me rends compte, tu vois, que...
Sous-côté dans sa ligue, quoi.
C'est qui le meilleur joueur d'Indiana? Siakam
ou Haliburton? Autre bonne question.
Bah, je sais pas. Moi, je sais pas.
Le niveau de Siakam est incroyable.
Pour moi, réellement, dans la constance...
Le patron, quand il faut prendre ses responsabilités, aller faire des, mettre des gros paniers en fin de match.
T'as regardé la fin de match ?
Tu te refais, là, mais refais-toi tous les matchs de toute la campagne.
Parlons de ce match, justement, qui est exceptionnel en termes de statistiques.
Alors, juste pour conclure, après, t'as un truc simple. Si Haliburton n'est pas bon, Indiana ne peut pas gagner.
C'est sûr. Mais si Siakam n'est pas bon, c'est compliqué aussi. Hein.
Mais pour qu'il règle, lui, le débat, il faudra qu'il soit champion. Je pense, si Indiana n'est pas champion, il restera toujours considéré comme un mec. Oui, allez, c'est bon. Il est gentil.
Des fois, ça ne suffit pas.
Donc, il sera gentil alors.
Alors, ça suffit pas quand tu t'appelles Tatum et que tu es jugé par un fan des Lakers, d'accord, ça suffit pas. Mais quand même, avoir une bague en étant l'option numéro 1.
Surtout à Indiana,
ça donne un statut.
Oui, mais en fait, tu parles de deux choses différentes. Tu parles d'avoir une bague et d'être l'option numéro 1. Ben, c'est pas Tatum donc.
Non, mais laissons Tatum de côté. Là, on parle d'Haliburton. Je pense que s'il est champion cette année en faisant ce qu'il fait là, il changera de statut, je pense.
Mais même d'aller en finale, ça serait un exploit, je trouve.
Non,
mais personne n'imaginait Indiana. Tu reprends les émissions qu'on faisait il y a un mois et demi.
Chercher les braquettes qui ont mis Indiana en finale.
Il y a un mois et demi, personne ne parlait d'Indiana. Ne serait-ce que
Boston Cleveland.
Tu marques l'histoire en étant champion, ce que n'a pas réussi à faire Monaco avec l'Euroleague. C'est notre deuxième débat.